Une Syrie forte bénéficiera à la sécurité et à la stabilité de la région, a dit le secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale iranien. Plusieurs morts et blessés lors d'un raid des forces d'occupation israéliennes sur l'hôpital Al-Shifa à Gaza. Et après sa victoire électorale, le président russe dénonce le manque de démocratie en Occident. C'était les principaux titres. En voici le journal. Le secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale iranien, Ali Akbar Ahmadian, affirme qu'une Syrie forte bénéficierait à la sécurité et à la stabilité de la région. Lors d'une réunion avec le ministre syrien de la Défense, Ali Mahmoud Abbas, à Téhéran, dimanche 17 mars, Ali Akbar Ahmadian a déclaré que l'expansion des relations mutuelles servirait les intérêts des deux parties et de toutes les nations de la région. Il a salué les grands acquis réalisés par le Front de la Résistance dans la lutte contre Israël lors de sa guerre génocidaire contre le peuple palestinien à Gaza et a déclaré que beaucoup de choses devraient être faites pour le soutenir. Le responsable sécuritaire iranien a également salué la résistance du gouvernement et de la nation syrienne en tant que membre de l'axe de la résistance face au régime sioniste, un groupe terroriste. Le ministre syrien de la Défense a pour sa part remercié l'Iran pour son soutien et souligné l'importance de développer davantage les relations tous azimuts entre les deux pays. Faisant référence à la guerre menée par Israël et Gaza au cours des 5 derniers mois, le ministre syrien a indiqué qu'après l'opération de la tempête d'Al-Aqsa, lancée par les groupes de résistance palestiniens à Gaza contre Israël, le monde n'est plus le même qu'avant. Tous les développements dans la bande de Gaza ont révélé la vulnérabilité d'Israël face au monde, a-t-il indiqué. Les forces d'occupation israéliennes ont attaqué lundi matin, 18 mars, le complexe médical Al-Shifa dans la ville de Gaza sous de lourds tirs aériens et d'artillerie. Le correspondant d'Al-Mayadin à Gaza a rapporté que des drones de combat israéliens avaient ouvert le feu sur des Palestiniens à proximité de l'hôpital, tandis que des avions d'attaque israéliens lançaient des ceintures de feu sur la région. Le correspondant a également mentionné que des navires de la marine israélienne avaient tiré vers les environs du complexe médical Al-Shifa, confirmant que plusieurs personnes ont été tuées en martyr et que quelques autres ont été blessées à cause de cette agression israélienne qui ne connaît pas de répit. Il a noté qu'il y a des coups de martyr dans les locaux du complexe qui ne peuvent pas être atteints en raison de l'assaut israélien en cours. Les forces d'occupation encerclent des centaines de personnes déplacées, de patients, d'équipes médicales et de journalistes à l'intérieur de l'établissement. Le correspondant d'Al-Mayadin a rapporté qu'un incendie s'était déclaré dans le bâtiment de chirurgie spécialisé à l'intérieur du complexe médical Al-Shifa à la suite des frappes aériennes. L'agression militaire d'Israël contre Gaza a jusqu'à présent tué au moins 31 645 Palestiniens et blessé 73 676 autres. Le régime a également imposé un siège complet sur le territoire, coupant le carburant, l'électricité, la nourriture, les médicaments et l'eau à plus de 2 millions de Palestiniens qui y vivent. La résistance irakienne affirme avoir mené une autre attaque de drones contre la base aérienne du régime sioniste sur le plateau du Golan occupé. La résistance islamique en Irak, qui regroupe les mouvements antiterroristes du pays, a annoncé le lundi 18 mars dans un communiqué sur sa chaîne Telegram avoir frappé par drone une base aérienne du régime sioniste dans le Golan occupé sans nommer la base. Les combattants de la résistance islamique en Irak, à l'aube d'aujourd'hui, lundi, ont ciblé avec des drones une base aérienne qui abritait les drones de l'occupation sioniste dans le Golan occupé, souligne le communiqué qui indique que les opérations contre l'entité occupante se poursuivraient et doubleraient pendant le mois sacré de Ramadan. Cette nouvelle frappe fait partie de la deuxième phase de ces opérations contre le régime israélien et en soutien au peuple palestinien à Gaza, dans un contexte de génocide en cours à travers le territoire. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a réitéré que son pays était opposé à tout projet pour déplacer de force les Palestiniens de la bande de Gaza. Le président égyptien a déclaré dimanche 17 mars lors d'une réunion avec la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, que l'Égypte n'autoriserait pas le déplacement forcé des Palestiniens hors de leur territoire, après que des rapports suggèrent que le régime israélien cherche toujours à expulser les habitants de Gaza dans le cadre de sa guerre brutale contre le territoire. Le président Sisi a souligné la nécessité de parvenir à un cessez-le-feu dans la bande de Gaza et réaffirmé le rejet par l'Égypte du déplacement forcé des Palestiniens hors de leur territoire, indique un communiqué de la présidence égyptienne à l'issue de la réunion. Des rapports des services de renseignement israéliens divulgués au début de la guerre contre Gaza suggéraient que les responsables du régime cherchaient à mettre en œuvre un plan visant à déplacer de force des centaines de milliers de Palestiniens de Gaza vers des camps de tentes dans la région voisine du Sinaï en Égypte. Le Caire a montré son rejet catégorique de ces projets tout en renforçant la sécurité le long de ses frontières pour empêcher tout débordement du conflit depuis Gaza. La rencontre entre Sisi et von der Leyen a eu lieu dans le cadre d'un sommet égypto-européen au Caire, dont beaucoup espèrent qu'il pourrait faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire à Gaza via l'Égypte. Le président russe Vladimir Poutine a prononcé son premier discours public après avoir une nouvelle fois assuré la présidence grâce à une victoire écrasante. Vladimir Poutine est sorti vainqueur de l'élection présidentielle russe grâce à une victoire éclatante qui lui a permis d'obtenir l'écrasante majorité des voix après 3 jours d'élection. S'adressant à ses partisans à son siège électoral dimanche soir 17 mars, Poutine a exprimé sa gratitude au peuple russe pour sa participation, soulignant que le résultat des élections favoriserait l'unité et la force au sein de la société russe. Il a souligné l'importance de ce triomphe électoral dans la consolidation du tissu sociétal russe et le renforcement de sa résilience. Il a exposé les principales priorités de son administration pour l'avenir, à la tête desquelles se trouve la guerre en Ukraine. Il a aussi abordé les affaires internationales et critiqué le concept occidental de la démocratie. « La démocratie est une imposture en Occident », a-t-il estimé. Le patron de Solar Group, filiale de Rostelecom, Igor Lyapunov a révélé samedi que le premier jour des élections russes, plus de 90 000 cyberattaques ont visé les portails électoraux en provenance d'Ukraine et d'Amérique du Nord. Il a déclaré que le nombre sans précédent de cyberattaques indique que l'Occident collectif se bat contre la Russie. Elles proviennent d'Ukraine et d'autres endroits d'Europe occidentale ainsi que d'Amérique du Nord, a-t-il précisé. Alors que les bureaux de vote pour l'élection présidentielle russe se clôturent, un sondage à la sortie des urnes mené par le Centre de recherche sur l'opinion publique russe a révélé que le président Vladimir Poutine est en tête avec une écrasante majorité de 87,8% des voix. Le candidat à la présidentielle, Nikolaï Kharitonov, a obtenu 4,6% des voix, tandis que Vladislav Davankov a obtenu 4,2%. Leonid Soltsky est en queue de peloton, avec 3% des voix. On estime que 1,2% des bulletins de vote ont été déclarés nuls, selon le sondage effectué à la sortie des urnes par le Centre de recherche sur l'opinion publique russe. Le vote s'est déroulé sur 3 jours, du 15 au 17 mars. Il s'agissait de la première élection présidentielle russe depuis la réforme constitutionnelle de 2020. La réforme avait imposé une limite de 2 mandats pour tout président. Cela a également annulé les anciens mandats de Poutine, lui permettant de se présenter à nouveau. Et le vice-président du Conseil présidentiel libyen, Abdullah Al-Lafi, a souligné dimanche le soutien du Conseil aux efforts déployés par la mission d'appui des Nations Unies en Libye, MANUL, pour faire progresser l'organisation des élections nationales. Al-Lafi a tenu ses propos lors d'une rencontre à Tripoli avec Abdoulaye Batili, représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour la Libye et chef de la MANUL, selon un communiqué publié par le Conseil. La rencontre a permis de discuter de l'impasse politique actuelle et des efforts visant à convoquer une conférence nationale inclusive réunissant toutes les parties prenantes au processus politique, indiqué le communiqué. Pour sa part, Abdoulaye Batidi a réitéré son soutien aux efforts déployés par le Conseil présidentiel pour parvenir à la réconciliation nationale. La Libye n'a pas réussi à organiser les élections générales initialement prévues en décembre 2021 en raison de désaccords entre partis au sujet des lois électorales. Voilà, ainsi s'achève le journal. Merci de l'avoir suivi. Restez à l'écoute du commentaire politique. Le ramadan à Gaza est marqué par la campagne de mort, de destruction et de famine israélo-américaine. Le ramadan, l'un des mois les plus sacrés pour les musulmans du monde entier, allie introspection spirituelle et vie familiale au sein de la communauté, notamment lors de la rupture du jeûne appelé iftar. Mais pour les habitants de Gaza ravagés par la guerre, ce mois sera différent de tous les précédents. Gaza subit une guerre génocidaire marquée par des bombardements, un siège et la déshumanisation des Palestiniens. Cette déshumanisation transforme les enfants, les femmes enceintes et les personnes âgées en cibles légitimes de la brutalité coloniale sioniste. Les images déchirantes de Gaza sont devenues des symboles de la cruauté de l'entité coloniale. Ce ramadan, les habitants de Gaza sont confrontés à la famine en raison de la politique de famine délibérée du régime occupant, dont le seul objectif est de rendre Gaza pratiquement inhabitable. La stratégie visant à rendre Gaza inhabitable et ingouvernable implique de provoquer un chaos absolu sur le territoire et de créer une situation de famine à grande échelle. Selon cette stratégie coloniale toxique, si aucune force politique n'est capable de maintenir un minimum de stabilité gouvernementale sur le territoire, celui-ci devient totalement dépendant de l'aide humanitaire. Dans le cas de Gaza, la stratégie de famine conçue par les occupants coloniaux sionistes est complétée par la distribution de l'aide humanitaire par les États-Unis, qui est décrite par beaucoup comme un spectacle et renforce la dépendance du territoire palestinien, le laissant dans un état de dépendance, le maintenant dans un état d'un chaos permanent. La famine imposée par Israël a coûté la vie à au moins 27 personnes, pour la plupart des enfants, qui sont mortes de malnutrition et de déshydratation. Les images de corps mal nourris sont devenues monnaie courante sur les réseaux sociaux ces derniers jours. Même si les grands médias occidentaux continuent de réduire ces pertes humaines colossales à de froides statistiques. Le génocide et la famine à Gaza sont soigneusement conçus pour causer du tort et créer des conditions atroces pour la population locale. Nous ne pouvons pas parler de justice et encore moins construire une société juste, alors que Gaza et le reste de la Palestine continuent de souffrir du génocide et de la famine. Tel doit être le message pendant le ramadan.